Et tout de suite, eh bien, c'est le moment de retrouver pour la dignité cette émission pour les droits humains. Régis Coulanges. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Alors, au sommaire de cette émission pour la dignité.
Oui, alors aujourd'hui, cette émission est consacrée essentiellement à la catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux en Israël et dans la bande de Gaza. Donc nous allons parler d'abord des termes employés hein, par les uns et les autres. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, terrorisme, etc. Et puis on parlera bien sûr donc des groupes armés palestiniens qui doivent rendre des comptes, d'Israël qui doit mettre fin aux attaques indiscriminées, lever le blocus, annuler l'ordre d'évacuation de Gaza, d'Amnesty International donc qui a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties pour mettre un terme aux souffrances sans précédent de la population civile. On vous expliquera un petit peu comment nous menons nos enquêtes hein, face aux informations et aux fausses informations qui circulent. Et puis, en fin d'émission, nous parlerons de l'action du groupe Dinois actuellement. Tout cela sera entrecoupé par des chansons sur la paix, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, donc on va commencer par l'utilisation des termes dans ces conflits. Alors Amnesty International n'utilise pas le terme de terrorisme. Est-ce qu'on doit parler de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? À chaque conflit, des débats font rage sur le champ lexical utilisé et rappellent l'importance des mots et de leur usage. Chez Amnesty International, pour parler d'un conflit, de ses acteurs ou des violations des droits humains, notre seule boussole reste le droit international, c'est-à-dire les conventions de Genève, le statut de Rome, la Cour pénale internationale, etc. Quelle est la réalité juridique derrière les mots qui entourent les conflits? Alors, crimes de guerre. Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire et plus particulièrement de ce qu'on appelle des lois et coutumes de la guerre, définies par les conventions de Genève et les conventions de La Haye. Il s'agit de crimes commis à l'encontre de civils et plus largement à l'encontre de toutes les personnes ne participant pas directement aux hostilités, à l'occasion d'un conflit armé international ou non international. Les crimes de guerre comprennent notamment les attaques délibérées contre les civils, la torture, le meurtre ou les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, les pillages et les destructions de biens civils, la prise d'otages ou encore les violences sexuelles. Qualifier un acte de crime de guerre ne sous-estime certainement pas ni ne banalise les violences par rapport à d'autres qualifications juridiques ou infractions comme le crime de torture. Un crime de guerre est une violation grave du droit international humanitaire pour laquelle les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. Crime contre l'humanité. Tandis que le crime de guerre est toujours commis dans un contexte de conflit armé, l'infraction de crime contre l'humanité, elle, s'applique également en temps de paix. Un acte est qualifié de crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. La définition du crime contre l'humanité englobe entre autres les disparitions forcées, les homicides, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique, le viol, l'esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. On parle aussi de crime de génocide. Il est commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les actes constitutifs du génocide sont le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide relèvent tous trois du droit pénal international. La Cour pénale internationale a été créée spécialement pour avoir à juger les auteurs de tels crimes. Dans nos rapports, nous établissons des faits en toute indépendance et en toute objectivité pour permettre d'établir des faits et d'alerter l'opinion publique, de faire pression sur les autorités pour que les violations des droits humains cessent, que les auteurs de crimes les plus graves rendent des comptes devant les juridictions compétentes et que les victimes obtiennent justice et réparation. Ainsi, les éléments de preuve expertisés par nos chercheurs et chercheuses et publiés dans nos rapports peuvent notamment être utilisés par la Cour pénale internationale. Voilà un petit point sur les termes utilisés. Et nous écoutons maintenant une chanson de la troupe Musicol, chanson en français, ukrainien, arabe, hébreu.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Ланну камінь, що ми кидаємо, у живі одного з потоку, і що залишив після себе. Тисяч вони тури, як окає чолі на небі, зі своїми конями зірка, як шла, так і кроли, що робить багато годин, як у кільце у цитульна, моя душа, моя вина, як ішла, так і кроли, що робить багато годин. Крутиш своє ім'я, всі нині він мов серця.
صيف السنين ذهب سرا وحمر الدحراش الغاب والمرا اللي شارة أحمر مثل الشعلان بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غارق مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب يا صفير السهر الجاي تبشر بالشتي تشريق وجو أسامي ببالي حدا يذكرني لمين دني حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور
היום ליד הירדן השמרה אותנו ואיפה האבן את האהבה שלנו אני זוכר הצל שלך על החוף הים אבל אני לבד עכשיו אני מכה על השולחן כמו טוב שמתבחן תחת טיפות הגשם ושירים נעלמים כשמזרח מתעלמים ועלי השלכת נושרים הן תחלת בשמיים היעדרותך משאירה את צבע שערך
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons
tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
On rappelle que c'est de Michel Legrand, mais en oui. toutes ses langues, c'est magnifique.
Voilà. Les artistes s'unissent pour chanter la paix. Alors, on va parler maintenant donc de l'attaque du Hamas. Le Hamas et les autres groupes armés palestiniens ont bafoué de manière flagrante le droit international et fait preuve d'un mépris effrayant pour la vie humaine en se livrant à des crimes cruels et brutaux, notamment des exécutions sommaires de masse et des prises d'otages, et en procédant à des tirs de roquettes aveugles sur Israël. Les éléments de preuve continuent d'affluer sur les horreurs qui se sont déroulées dans le sud d'Israël, et nos équipes poursuivent leur investigation en vue de déterminer toute l'ampleur des crimes relevant du droit international. Les informations étayées concernant les crimes de guerre commis par Israël n'excusent pas les actes abominables des groupes armés palestiniens et ne les dispense pas de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à savoir respecter les principes fondamentaux d'humanité et de protection de la population civile, a réagi Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International. En Israël, plus de 1400 personnes, principalement civiles, dont des enfants, ont été tuées, chiffre au 24 octobre 2023, et 2400 ont été blessées par les groupes armés palestiniens. Selon les autorités israéliennes, environ 200 personnes, dont des civils, sont également retenues en otage. À Gaza, plus de 5000 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 6600 blessées par les représailles de l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza, et ces chiffres ont augmenté depuis. Nous avons analysé les vidéos effrayantes du premier jour des attaques, le 7 octobre. Les attaques contre Israël ont débuté par un barrage de tirs de roquettes depuis Gaza, suivi d'une incursion du Hamas et de groupes armés palestiniens. Des milliers de roquettes ont atterri dans plusieurs régions au centre et dans le sud d'Israël, atteignant même Tel Aviv. Ces attaques illégales ont tué à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Elles ont aussi frappé des villages palestiniens non reconnus dans la région du Negev-Nakab, faisant au moins 6 morts, dont 5 enfants. Ces populations marginalisées vivent déjà dans des conditions précaires, sans possibilité de s'abriter. Sur les vidéos analysées par le laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises d'Amnesty International, on peut également voir, le premier jour des attaques, des combattants palestiniens en train de tirer délibérément sur des personnes civiles et d'en prendre d'autres en otage, notamment autour des quartiers résidentiels israéliens proches de la bande de Gaza. Des vidéos filmées dans le kibboutz de Be'eri et analysées par nos équipes montrent deux hommes en tenue militaire tirés à bout portant sur une voiture, tuant le chauffeur et deux passagers avant d'entrer dans la communauté. On voit ensuite deux hommes armés emmener les trois corps à bord d'un véhicule. Sur des images filmées plus tard, ce même jour, six hommes en tenue militaire emmènent quatre personnes civiles qui ont les mains liées dans le dos. Une autre vidéo filmée au même endroit montre les corps sans vie de ces personnes. Des vidéos contenant des images tout aussi choquantes, filmées dans les kibboutz de Kfar Aza, de Rem et le long de la route 232 ont été vérifiées. On y voit des hommes armés tirés à bout portant sur des voitures et sur un civil caché dans un abri anti-bombe. Lors d'une attaque des plus horribles au festival de musique Nova, au moins 260 personnes ont été tuées, tandis que d'autres sont toujours portées disparues. On y dénombre au moins 260 morts. L'attaque a débuté vers 7h-7h30 du matin par un déluge de roquettes tirées depuis Gaza, suivi par une incursion de combattants et de groupes armés. On a pu vérifier le lieu et l'heure de 18 vidéos, principalement filmées par des survivants. L'une de ces vidéos, au moins, semble avoir été filmée par des membres des groupes armés impliqués. Cette vidéo authentifiée montre des hommes armés ouvrir le feu sur des personnes civiles, avec comme bruit de fond des tirs ininterrompus. Cinq vidéos montrent des personnes en train de tenter de fuir, en traversant un champ voisin ou en se cachant derrière les buissons. Dans une vidéo, un homme armé tire directement sur un civil étendu au sol. Dans une autre vidéo, des hommes armés ouvrent le feu sur des voitures qui tentent de fuir le site du festival.
5 vidéos montrent des prises d'otages. Nous nous sommes entretenus avec une victime âgée de 22 ans. Dès le début de l'agitation, ce jeune homme a couru vers une zone boisée où il a creusé un trou avec les mains, puis s'est enterré au milieu des arbres, se servant de tout ce qu'il trouvait pour recouvrir son corps. Il y est resté 6 heures et pendant ce laps de temps, il a entendu des tirs incessants. À un moment, il a levé la tête, juste assez, pour voir des combattants tirer dans le dos de personnes qui s'enfuyaient. Il nous a raconté. Puis, j'ai vu qu'ils jetaient du carburant partout pour brûler la zone, et j'ai entendu et senti le feu. J'ai alors réalisé que je n'avais pas le choix. Soit je partais et je me faisais tirer dessus, soit j'étais brûlé dans cette cachette. Je n'arrive pas à dormir la nuit, et je ne peux pas rester seul. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois toute l'horreur de la scène, des cadavres partout, des personnes coincées dans leur véhicule en flammes, l'odeur du sang. Yaakov Argamamni, dont la fille Noah était prise en otage, a déclaré qu'il a commencé à s'inquiéter samedi matin lorsqu'il a entendu les sirènes et qu'il n'a pas réussi à contacter Noah. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je suis un père et vous savez, les parents sentent parfois que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'expliquer. Alors j'ai essayé de la contacter, mais en vain. » Il a appelé les hôpitaux à la recherche de sa fille, mais elle ne s'y trouvait pas. Il a ensuite reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui lui a dit avoir vu une vidéo de Noah emmené sur une moto vers la bande de Gaza. Il nous a déclaré « Je ne pouvais pas y croire. Je ne l'ai admis que plus tard, lorsque j'ai vu d'autres vidéos où je la voyais sur une moto, son petit ami dans un autre véhicule à côté d'elle, emmené dans la bande de Gaza. Je ne fais que penser à elle. » Uri David, dont les filles Ter et Odaya David sont toutes deux portées disparues, a déclaré « Cela fait 48 heures et de nombreuses familles ne savent rien, rien du tout. J'étais au téléphone avec mes filles hier matin, elles étaient allongées par terre. J'entendais des bruits de fond, on se serait cru dans un champ de tir, des cris en arabe tout autour. J'ai entendu tout ça et je leur ai dit de se mettre par terre et de s'allonger face à face et de se tenir la main. Ne respirez même pas, retenez votre respiration, ce n'était pas facile. » J'étais au téléphone avec elle pendant une trentaine de minutes, jusqu'à ce que j'entende 4 respirations très essoufflées, puis plus rien. Je demande au monde entier de regarder ce qui se passe. Nous devons récupérer nos enfants, dès que possible. Voilà donc l'horreur de cette attaque du 7 octobre. On va écouter maintenant une chanson de Raymond Levesque, « Quand les hommes vivent d'amour ».
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour. qu'ils connaîtront alors mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Voilà. Les hommes ne vivent toujours pas d'amour, hélas. On a parlé donc de l'action du Hamas le 7 octobre. Maintenant, on va parler de la réaction d'Israël. Nous sommes horrifiés par la mort de centaines de civils dans l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Pour rappel, les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire. Toute attaque à leur encontre est une violation grave de ce droit. Les terribles massacres de civils israéliens perpétrés par le Hamas et les groupes armés palestiniens ne dispensent pas Israël de se conformer à ses obligations de respecter le droit international humanitaire et de protéger la population civile. Les sanctions collectives infligées aux civils de Gaza ne rendront pas justice aux victimes des crimes de guerre commis par le Hamas et n'apporteront pas la sécurité à la population civile en Israël. C'est ce que nous a dit Agnès Callamard. Ce que nous dénonçons, les bombardements incessants sur Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées du monde, qui ont fait des milliers de morts et des milliers de blessés, dont de nombreux civils. Nous avons notamment récolté des preuves accablantes de crimes de guerre dans notre enquête sur 5 attaques israéliennes contre la bande de Gaza qui ont eu lieu entre le 7 et le 12 octobre. Le siège total imposé à Gaza, privant la population gazaoui d'eau, de nourriture et d'électricité, sur l'ordre du ministre de la Défense, le 9 octobre 2023. Nous dénonçons la fermeture de la seule centrale électrique de Gaza qui a exacerbé la crise humanitaire déjà catastrophique que subissent plus de 2,2 millions de personnes piégées dans la bande de Gaza et sous blocus illégal depuis 16 ans. L'ordre d'évacuation du nord de Gaza et de la ville de Gaza vers le sud de la bande de Gaza qui ne peut être considéré comme un avertissement efficace et peut constituer un déplacement forcé de populations civiles en violation du droit international humanitaire. Tout ceci s'apparente à une punition collective, ce qui constitue un crime de guerre. Les forces israéliennes déclenchent le déplacement forcé et massif de plus de 1,1 million d'habitants de la ville de Gaza et de toutes les parties nord de la bande de Gaza. Un habitant a décrit les scènes de chaos et de panique. Un trajet d'une heure nous a semblé durer 30 ans. Nous avons dû changer plusieurs fois d'itinéraire. Tout le monde court pour survivre. C'est au-delà de l'horreur. Les enfants pleurent, terrorisés. Nous avons déjà rassemblé des informations sur le fait que plusieurs familles ont fui leur maison pour se rendre dans des zones qu'elles pensaient plus sûres, mais qui ont ensuite été bombardées. Nous avons recueilli le témoignage d'un homme qui a fui Beth Hanoun avec sa famille à pied à l'aube du 8 octobre pour se réfugier dans une école gérée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Son fils de 19 ans a ensuite été tué lors d'une attaque contre une rue du marché de Jabalia, alors qu'il allait chercher du pain pour sa famille. Parmi les personnes déjà déplacées figurent des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques. Nous avons parlé avec des femmes et des filles en situation de handicap qui ont fui leur maison à pied. Elles ont marché des heures dans la peur des bombardements pour trouver refuge dans des écoles dans le nord de la bande de Gaza. Elles ne sont pas en mesure de parcourir à pied la longue distance jusqu'au sud de Gaza, où de nombreux abris ont déjà atteint leur capacité d'accueil. Un travailleur humanitaire en poste à Gaza a déclaré à Amnesty International « L'armée israélienne doit me dire comment nous pouvons évacuer des hôpitaux avec des patients en soins intensifs et tous les blessés des récentes attaques. C'est absurde, totalement impossible.
Les frappes aériennes israéliennes ont par ailleurs gravement endommagé les routes dans le nord de Gaza. Les transports publics sont inexistants et le carburant est rare du fait du durcissement du blocus. La majorité de la population de Gaza se compose de descendants de réfugiés qui ont été déplacés ou contraints de fuir leur maison pendant le conflit de 1947-49, au cours duquel plus de 750 000 Palestiniens ont été déplacés de force de leurs villes et villages, un épisode connu sous le nom de Nakba, qui signifie la catastrophe en arabe, au sein de la population palestinienne. Si de nombreux Palestiniens du nord de la bande de Gaza tentent de fuir, d'autres ont déclaré à Amnesty International qu'ils préfèrent rester, redoutant une seconde Nakba, tant le traumatisme générationnel du déplacement est gravé dans la mémoire collective de nombreux Gazaouis. Munir Radouane, un professeur d'université, nous a déclaré « Nos parents ont été expulsés de chez eux en 1948, lors de la Nakba. Nous avons perdu notre maison, détruite lors de l'offensive d'août 2022. Nous l'avons reconstruite, pour l'avoir à nouveau détruite. Toute notre vie se résume à un enchaînement de déplacements. » Nous rappelons que les civils palestiniens ne sont pas responsables des crimes du Hamas et des autres groupes armés palestiniens, et qu'en vertu du droit international, Israël ne doit pas leur infliger des souffrances pour des actes dans lesquels ils ne jouent aucun rôle et sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Ce que nous demandons, nous appelons Israël et tous les groupes armés palestiniens à respecter leurs obligations au terme du droit international humanitaire et à protéger la population civile. Les groupes armés palestiniens doivent libérer sur le champ tous les otages civils et ne plus procéder à des tirs de roquettes sans discernement sur Israël. Israël doit se conformer aux principes du droit international, notamment aux principes de proportionnalité et de distinction, et ne doit pas imposer de sanctions collectives, se livrer à des représailles, ni déplacer les populations. Nous appelons Israël à faciliter la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et à laisser passer en toute sécurité les personnes blessées et les civils qui souhaitent fuir le conflit armé. Nous demandons instamment à la communauté internationale d'œuvrer à la conclusion d'un accord sur l'établissement de couloirs humanitaires. Les autorités israéliennes doivent s'abstenir de mener des attaques illégales qui tuent ou blessent des civils et détruisent des habitations et des infrastructures de caractère civil. Les responsables israéliens ne doivent pas inciter à la violence contre les Palestiniens et Palestiniennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et doivent assurer la sécurité de tous les civils qui vivent sous leur contrôle. Les alliés d'Israël et les États donateurs doivent appeler sans attendre au respect du droit international humanitaire et à la protection des populations. Les civils de Gaza ne doivent pas être utilisés comme des pions sur l'échiquier politique et leurs vies ne doivent pas être dévalorisées. En outre, la communauté internationale doit s'abstenir de légitimer davantage le blocus illégal imposé par Israël depuis 16 ans et mettre fin au transfert d'armes susceptibles de servir à commettre des attaques illégales. Si on revient sur le contexte, Israël impose depuis 2007 un blocus terrestre, maritime et aérien contre la bande de Gaza, sanctionnant ainsi l'ensemble de la population. Les combats qui se déroulent en ce moment constituent la sixième opération militaire majeure impliquant Israël et les groupes armés de la bande de Gaza depuis cette date. Le 9 octobre 2023, dans le cadre de représailles israéliennes à l'attaque du Hamas, qui a fait 1200 morts, le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, a annoncé un siège complet de Gaza, pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. En juin 2023, Amnesty International a publié son enquête sur l'offensive de mai 2023 contre la bande de Gaza, concluant qu'Israël avait illégalement détruit, souvent sans aucune nécessité militaire, des habitations palestiniennes, ces destructions constituant une forme de sanction collective infligée à la population civile. Dans son rapport de février 2022, Amnesty International démontrait que les forces israéliennes avaient commis à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie et en Israël, des actes interdits par le statut de Rome et la Cour pénale internationale et par la Convention contre l'apartheid, dans le cadre d'une attaque généralisée et systémique contre la population civile, dans le but de maintenir le système d'oppression et de domination des Palestiniens, ce qui constitue le crime contre l'humanité d'apartheid. Nous allons maintenant écouter une chanson aussi sur la paix de Fet Slimane et Anaka, Ensemble pour la paix.
Combien de cœurs innocents laisserons-nous tomber?
Combien de vies volées, trop de mères ont pleuré. Assez de peur et de sang, nos vies sont bien trop brèves.
Bien plus qu'un rêve, faisons la trêve.
Que les combats s'achèvent.
Allons plus loin encore, repoussons les frontières,
unissons nos cœurs et nos prières.
Faisons trembler la terre, marchons s'il le faut, il est temps.
Aimer et m'offrir une guerre que je n'ai pas décidée.
Contre les voies de la haine qui engendre la peine, nos différences sont une chance, l'heure est à l'espérance.
Allons plus loin. Repoussons les frontières,
unissons nos cœurs et nos prières.
Faisons trembler la terre, marchons s'il le faut, il est temps.
Ensemble, battons-nous.
Voilà, le 26 octobre dernier, Amnesty International a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties pour mettre un terme aux souffrances sans précédent de la population civile. Amnesty International se joint aux appels de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, des organes des Nations Unies travaillant en Palestine et de nombreux experts de droits humains, représentée par une longue liste de procédures spéciales de l'ONU, qui réclame également un cessez-le-feu, de même que le secrétaire général des Nations Unies et le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis les attaques effroyables menées dans le sud d'Israël le 7 octobre, lors desquelles, selon les autorités israéliennes, le Hamas et les autres groupes armés ont tué au moins 1400 personnes et pris plus de 200 otages, civils pour la plupart, les forces israéliennes ont procédé à des milliers de frappes aériennes et terrestres contre la bande de Gaza, tuant plus de 6500 personnes, principalement des civils, dont au moins 2704 enfants, d'après le ministère palestinien de la Santé de Gaza. Plus de 17 000 personnes ont été blessées, plus de 2 000 dépouilles se trouvent encore sous les décombres, tandis que le système de santé est exsangue. L'offensive terrestre qui commence des forces israéliennes risque d'avoir des conséquences dramatiques pour la population civile de ce territoire, comme l'annoncent les menaces inquiétantes adressées par l'armée israélienne aux civils qui sont restés dans le nord de la bande de Gaza. La population civile israélienne continue également de subir des tirs de roquettes aveugles de la part du Hamas et des autres groupes armés de Gaza. Face à la catastrophe humanitaire sans précédent qui touche la bande de Gaza et s'aggrave de jour en jour, un cessez-le-feu immédiat de toutes parties est indispensable pour permettre aux organisations humanitaires d'acheminer suffisamment d'aide dans ce territoire et de la distribuer en toute sécurité et sans condition. Un tel cessez-le-feu permettrait aux hôpitaux de recevoir des médicaments vitaux, l'eau et les équipements dont ils ont désespérément besoin, ainsi que de réparer leurs bâtiments endommagés. Un cessez-le-feu immédiat serait aussi le moyen le plus efficace de protéger la population civile, dans la mesure où les parties au conflit continuent de commettre de graves violations. Il pourrait éviter que le bilan en vie civile ne continue de s'alourdir à Gaza. Enfin, il pourrait offrir une possibilité d'obtenir la libération des otages sains et saufs. Amnesty International a recueilli des informations faisant état de crimes de guerre commis par les forces israéliennes et par le Hamas. Un cessez-le-feu pourrait également permettre que des enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains et les crimes de guerre perpétrés par toutes les parties soient menées, notamment par la Cour pénale internationale et par la Commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé. Ce travail est essentiel car il faut absolument mettre fin à l'impunité qui prévaut de longue date pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et garantir justice et réparation aux victimes afin d'empêcher que ces atrocités se reproduisent et de régler les causes profondes du conflit, comme le système d'apartheid imposé par Israël à tous les Palestiniens et Palestiniennes. Par ailleurs, Amnesty International réitère ses appels suivants. Les parties doivent mettre un terme aux attaques illégales, notamment aux attaques menées sans discrimination, aux attaques visant directement des civils et des biens de caractère civil, et aux attaques disproportionnées. Israël doit permettre immédiatement l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza occupée, lever son blocus illégal de ce territoire qui dure depuis 16 ans, et autoriser sans délai la Commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé à se rendre sur place. La communauté internationale doit imposer un embargo général sur les armes à toutes les parties au conflit, compte tenu des graves violations constitutives de crimes de droit international qui sont commises. L'enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine doit recevoir un soutien total et tous les moyens nécessaires. Le Hamas et tous les autres groupes armés doivent libérer immédiatement et sans condition tous les otages civils et traiter humainement toutes les personnes qui sont retenues captives, notamment en leur fournissant des soins médicaux en attendant qu'elles soient libérées. Israël doit libérer tous les Palestiniens qui sont détenus arbitrairement. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment en démantelant le système d'apartheid imposé par Israël à tous les Palestiniens. Voilà, donc on a lancé un appel à un cessez-le-feu. Cet appel, vous pouvez aller le signer, hein, soyez nombreux à le signer. Vous le trouverez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, qui est le site français, ou sur le site international en tapant amnesty.org. O-R-G. Voilà l'appel d'Amnesty à un cessez-le-feu. On va maintenant écouter une chanson plus ancienne de Jean Ferrat, La paix sur terre.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Voilà, la seule guerre que les hommes devraient mener, c'est contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Je vais maintenant vous expliquer comment nous menons nos enquêtes. Établir les faits, c'est le travail d'Amnesty International. À l'heure de la désinformation, des images falsifiées, des vidéos décontextualisées, circulant massivement sur les réseaux sociaux, notre travail de recherche, indépendant et impartial, est d'autant plus essentiel. C'est dans ce contexte qu'interviennent toutes nos équipes de recherche, sur le terrain ou à distance, à travers notre laboratoire de preuves. Tous et toutes sont spécialisés sur des conflits ou des régions spécifiques. Toutes et tous partagent une même déontologie. Recueillir, authentifier, expertiser. Dans nos rapports, nous établissons des faits en toute indépendance et en toute objectivité pour permettre d'établir des faits et d'alerter l'opinion publique, de faire pression sur les autorités pour que les violations des droits humains cessent, que les auteurs de crimes les plus graves rendent des comptes devant les juridictions compétentes, que les victimes obtiennent justice et réparation. Ainsi, les éléments de preuve expertisés par nos chercheurs et chercheuses et publiés dans nos rapports peuvent notamment être utilisés par la Cour pénale internationale. Notre laboratoire de preuves fait partie de notre programme Réaction aux crises, créé en 2013, notamment pour répondre à la profusion des images et vidéos non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. Il regroupe une équipe d'une trentaine d'enquêteurs et enquêtrices. Cette équipe pluridisciplinaire spécialiste des données visuelles en open source, des armements, des données, développeurs, etc., recense à distance les violations des droits humains à l'aide d'outils d'investigation numérique de pointe. Via ces outils, ils vont notamment pouvoir authentifier et contextualiser une image ou une vidéo par la date et l'heure, le lieu de prise de vue, etc. Ils contribuent donc à garantir que les informations provenant des zones de conflit soient exactes. Lorsqu'il est difficile et dangereux pour nos équipes de recherche de se rendre sur le terrain, le travail de notre laboratoire de preuves est d'autant plus important. Les éléments de preuve recueillis et analysés seront corroborés par des entretiens menés par nos équipes de recherche sur le terrain ou à distance avec les témoins des attaques. Ce travail minutieux de vérification et de contextualisation des informations en open source vient s'ajouter aux preuves matérielles récoltées par nos chercheurs. En effet, l'une des spécificités de notre organisation est de produire ses propres enquêtes. Pour cela, des chercheuses et chercheurs sont mobilisés dans toutes les régions du monde. De formation juridique, ils produisent des recherches exclusivement pour Amnesty International. Nous avons 100 équipes de recherche, 70 rapports publiés chaque année et 150 pays couverts. Pour documenter les possibles violations des droits humains, nos chercheurs peuvent être envoyés sur le terrain ou mener leur entretien et recherche à distance lorsque la zone est impossible d'accès ou trop dangereuse. Chaque situation est différente, mais la méthodologie employée est toujours la même. Nos chercheurs sur le terrain mènent de nombreux entretiens avec les témoins, les survivants et les familles des victimes d'attaques, des personnes de la société civile, comme des médecins ou infirmiers. Ces entretiens sont croisés avec l'analyse d'images satellitaires et tout le matériel disponible en open source, vidéos, photos, etc. Un travail essentiel pour reconstituer les faits, établir s'il y a ou non violation du droit international. Le but est de comprendre comment l'attaque et les bombardements aériens se sont passés, qui sont les victimes, mais aussi et surtout de déterminer dans quelles circonstances se sont déroulées les frappes. Algérie, Sud-Soudan, Côte d'Ivoire, Libye, Syrie, Somalie, Centrafrique. Depuis plus de 20 ans, Donatella Rovera est chercheuse sur les situations de crise et de conflit au siège d'Amnesty International. Elle enquête sur les crimes de guerre partout dans le monde. Elle nous a dit notamment « La guerre d'information, de désinformation, la propagande, je crois que je n'ai jamais travaillé dans une guerre où ça n'existait pas. Le risque de manipulation existe toujours. Face à ça, il faut s'en tenir à la méthodologie. Si on n'a pas pu vérifier une information, on ne l'utilise pas. C'est simple, même si ça peut être frustrant. Quant aux pressions du type « Pourquoi vous n'avez pas fait des rapports sur tel ou tel cas ou tel sujet ?» Il faut tout simplement y résister. Les seules informations que l'on doit publier sont celles qui ont pu être vérifiées au niveau exigé par notre déontologie. Une fois que les informations ont été recueillies et analysées par nos équipes du laboratoire et nos chercheurs sur place, il faut déterminer le type de violation dont il est question. Toujours avec le prisme du droit international, notre organisation a pour objectif de faire garantir le droit international sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que des traités et conventions internationales, comme la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. La documentation issue de nos recherches et de nos rapports a été utilisée par la Cour pénale internationale dans ses enquêtes. Voilà notre façon de travailler. On va écouter maintenant une chanson de Zaz, Si.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière, et fleurirais des sables fruits même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. «
j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édènes au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de main tendue de brindille, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver y résisterait? Un monde frère, une terre sœur, nous bâtirons dans ses cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur.
Je ne sais pas cette chanson de
Zaz. Oui, belle chanson qui va bien avec Amnesty, hein, puisqu'on essaye de se mettre ensemble pour, sur les cendres, construire quelque chose de positif. Voilà donc, au terme de cette émission, consacrée essentiellement à cette catastrophe humanitaire qui se déroule en Israël et dans la bande de Gaza. Je vais vous parler de quelques actions du groupe Dinois. Donc demain, à partir de 17h, nous avons notre réunion mensuelle. Si parmi les auditeurs, certaines personnes veulent venir voir comment ça se passe, vous êtes les bienvenus. Donc c'est à 17h dans la villa qui se trouve derrière le grillage du parking de l'étal des Trois-Vallées. Voilà, chez Madame Blanc. Vous pouvez venir voir sans problème notre réunion demain à 17h.
Donc c'est mardi 31 octobre 2023,
voilà.
Pour ceux qui réécouteront l'émission encore plus tard.
Oui.
Voilà.
Donc notre espoir, hein, dans ce monde dur, repose notamment sur les jeunes. On a une antenne jeune d'Amnesty International au lycée Pierre-Gilles Lejeune. Et en ce moment, on est en train de créer une nouvelle antenne jeune au lycée Alexandra Davinel. Avec, grâce au concours de la nouvelle proviseure, Madame Dahl, qui est tout à fait favorable, qui est venue écouter notre intervention. Et nous avons des jeunes prêts à créer cette antenne jeune. Et donc, une fois qu'elle sera créée, ils vont faire des actions en faveur du droit international, en faveur des droits humains, au sein de leur lycée. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous d'avoir ces jeunes qui se mobilisent pour la paix et pour la justice. Voilà, on est toujours dans la préparation d'une exposition d'artistes locaux en soutien à notre artiste cubain Luis Manuel Otero Alcantara. Nous avons déjà récolté de nombreuses œuvres, hein, de Pierre Laroche, Christine Fontaine, Frédéric Gourdon, Frédéric Maillard, Maryse Bravin, Gaston Jacquier, Dominique Ménagier, Gérard Schmidt-Bala, Claude Braun, Ghislaine Saint-Martin, Louise Latil, Valentin Luce, Alain Magot, etc. etc. On a d'autres promesses d'œuvres. Alors il y aura des photos, des sculptures, des peintures, des collages. Tout ça sur le thème de la liberté d'opinion, d'expression. Et nous en profiterons pour mettre la lumière sur cet artiste cubain qui est emprisonné juste pour avoir voulu s'exprimer par son art. Donc l'exposition aura lieu du 5 au 9 décembre à la salle d'exposition de la médiathèque de Digne-les-Bains. Le 5 à 18h, le mardi 5 à 18h, il y aura le vernissage de l'exposition. Et puis le samedi 9, le dernier jour de l'exposition, nous vous proposerons les pétitions des 10 jours pour signer, puisqu'on choisira, comme chaque année, 10 cas emblématiques des violations des droits humains qui se déroulent dans le monde. Et nous appelons le maximum de personnes à venir signer les pétitions, envoyer des cartes de soutien, etc. Donc nous serons, le groupe sera là le 9 décembre. Alors n'hésitez pas à aller voir cette expo, à mon avis elle sera très très belle, sur la liberté d'expression. Voilà, et puis on prépare bien sûr un festival de cinéma, de films sur les droits humains du mois de mars. Donc là on va faire la sélection des films à partir de la liste qui nous est proposée. On va terminer par une chanson chantée par des enfants, la fameuse chanson « Imagine » de John Lennon, qui est l'une des plus belles chansons du monde, et que la femme de John Lennon a donnée à Amnesty International. On écoute « Imagine ». À très bientôt à tous.
Merci, merci Régis Coulange. Et puis on rappelle que la prochaine émission... Donc c'est en décembre, ce sera le 4 décembre, lundi, et ce sera exceptionnellement à 8h30 sur 99.3. Merci Régis, à très bientôt.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
A brotherhood.